Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Vous le savez, la France vient de prendre pour 6 mois la présidence de l'Union européenne et c'est l'occasion de réfléchir aux enjeux de mémoire à l'échelle du continent. Nous allons donc parler d'un phénomène récent mais de grande ampleur, les lois dites mémorielles qui se prononcent sur notre rapport au passé. Ces nouvelles pratiques politiques suscitent bien des débats, notamment autour de la liberté d'expression et de l'indépendance du travail de l'historien. Comment se sont-elles développées à partir des années 80? Que disent-elles de nos sociétés? Pourquoi se font-elles parfois concurrence? Quels sont leurs effets réels? Sébastien Ledoux a dirigé un hors-série sur le sujet aux presses universitaires de Rennes, avec plusieurs études de cas nationaux. Et c'est tout à fait passionnant d'ouvrir nos horizons. Il est chercheur en histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Alors Sébastien Ledoux, aujourd'hui, 28 pays européens sanctionnent certains propos sur le passé. C'est donc une pratique courante, nous y sommes habitués dans notre paysage, mais en réalité, c'est très récent.
Oui, c'est une pratique législative récente qui remonte surtout aux années 1990. Nous, on connaît évidemment la loi Guesso, on en a beaucoup parlé, puisque la loi Guesso a introduit une pénalisation de la contestation des crimes contre l'humanité, et donc on visait là le génocide des Juifs, suite à Nuremberg, donc on est dans l'après-guerre, et donc à l'appui de cette règle internationale, le droit international, en fait, vous avez une loi qui a été votée au Parlement français en 1990, donc qui va, dans un article, pénaliser la contestation de crimes contre l'humanité, donc en visant le génocide des Juifs. Mais on se rend compte finalement, et donc le dossier que vous évoquiez a très bien montré ça à travers des études de cas.
Il n'y a pas que la France.
Il n'y a absolument pas que la France. C'est un phénomène européen, voire mondial finalement, mais plus connu en Europe. Et je dirais parce que déjà, il y a une tradition juridique qui est propre à l'Europe. Cette tradition juridique, c'est de faire des lois, contrairement à d'autres pays comme justement les anglo-saxons, qui préfèrent régler des conflits en portant l'affaire, je dirais, devant la justice. Et là, on est déjà dans deux cultures juridiques tout à fait différentes. On se rend compte que dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, il y a beaucoup moins de lois mémorielles que dans les pays d'Europe centrale, orientale et même du sud. Et donc là, on est dans une pratique quand même assez spécifique à l'Europe, du droit européen, où finalement, quand il y a un conflit de mémoire, enfin on va l'appeler comme ça, ce conflit doit se régler par voie législative. Donc ça, c'est une première spécificité.
Alors, ces lois sont de différents types. Certaines sont simplement déclaratives et d'autres s'accompagnent de sanctions. Il apparaît que ces sanctions sont vraiment spécifiques de ce qui se passe en Europe. On en trouve très peu ailleurs.
Les sanctions, effectivement, c'est ce qu'avait mis en avant un historien russe, Nicolas Koposov, dans son livre, donc justement sur une étude comparative. Pour lui, les sanctions sont le propre des lois mémorielles. Je pense qu'il faudrait élargir. Bon, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Mais en tout cas, on a effectivement une intention depuis les années 1990, surtout en Europe de l'Ouest, et ensuite c'est venu en Europe de l'Est, on y reviendra peut-être là aussi, de sanctionner certains propos tenus publiquement sur le passé. Et là, évidemment, ces propos concernent des contestations de crimes qui ont été catégorisés comme des génocides ou des crimes contre l'humanité. Et donc là, il faut vraiment préciser les choses, évidemment. Il s'agit avant tout, en priorité, principalement du génocide des Juifs et du génocide des Arméniens, commis en 1915, donc génocide des Juifs évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, génocide des Arméniens donc commis pendant la Première Guerre mondiale par la Turquie. Et là, en fait, vous avez des parlements qui sont, et on est dans des évolutions de sensibilité politique aussi, qui sont de plus en plus soucieux du droit des minorités et de plus en plus soucieux, finalement, des victimes, de la question des victimes. Et la question des victimes, elle est au centre aussi de l'adoption de ces lois mémorielles depuis les années 1990. C'est-à-dire que finalement, pour le législateur, ce qui fait trouble à l'ordre public, c'est la contestation de crimes qui ont été commis contre des populations entières et contre notamment des minorités. Et là, il faut mettre en parallèle autre chose. Ce sont les conventions internationales, mais aussi surtout européennes, sur le droit des minorités. Il ne faut jamais oublier ça. En fait, les deux vont ensemble.
Et c'est un véritable tournant parce qu'on le comprend bien en lisant votre hors-série. Pendant longtemps, la façon dont les sociétés résolvaient leurs conflits violents, c'était au contraire d'oublier, d'avoir une politique d'amnistie. Et le trouble à l'ordre public, c'était au contraire de mettre en avant eh bien, ces blessures, de mettre en avant les victimes. On a complètement changé de paradigme.
Alors, c'est un point qui me paraît essentiel, que je passe mon temps à répéter, effectivement, pour mieux comprendre, en fait, notre appréhension du passé. Il faut revenir sur cette question de mémoire et oubli. Finalement, jusqu'aux années 1980, vous aviez une tradition politique qui remonte à très, très, très longtemps, qui est dominante parmi les élites, en fait, hein, pour traiter des violences, pour traiter des conflits. Et donc, l'exemple type, c'était justement l'exemple de l'édit de Nantes en 1598 que je cite en introduction. Hein, en 1598, les deux premiers articles concernent justement la pénalisation de l'évocation des violences qui ont été faites avant 1598, qui concernent évidemment les guerres de religion. Donc, on est dans un paradigme très précis, qui est que finalement, le trouble à l'ordre public est causé par la remémoration des crimes, par la remémoration des victimes, et qu'on considère qu'il faut, pour pacifier une société, aller de l'avant en oubliant. Et alors là, on est avec différents types de résolutions, mais toujours dans ce sens-là. Et je cite la loi de 1977 en Espagne, puisqu'il faut citer des cas européens. La loi de 1977 en Espagne, donc, qui survient après Franco, après la mort de Franco en 1975, c'est exactement ce modèle-là. Il faut oublier, c'est un pacte d'oubli et d'amnistie, puisque en fait, l'oubli va aussi avec l'amnistie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de poursuivre des individus auteurs de crimes, il faut finalement les déresponsabiliser de ces crimes parce qu'on considère que la société va pouvoir se renouveler, se pacifier en oubliant ces crimes. Le retournement, il est total, il est complet, il est progressif, ça ne se fait pas en un an, mais il se fait entre les années 1980 et 1990. Et finalement, ce modèle de justice, alors ce qu'on appelle aussi la justice transitionnelle, on part de l'Amérique latine et on part en Argentine en 1983-1985. Ensuite, évidemment, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, mais aussi en France, le cas du procès Barbie en 1987 est complètement dans ce dispositif de vérité et réconciliation. Et bien pourquoi ? C'est-à-dire que le primat est donné quand même à la souffrance des victimes. D'une façon transgénérationnelle, ça il faut absolument effectivement le comprendre, c'est-à-dire que la notion de traumatisme va, on va dire, envahir, va être dominante dans nos appréhensions du passé. On va considérer que les blessures qui ont été faites auparavant restent et demeurent. Les violences commises provoquent des blessures non seulement pour les acteurs eux-mêmes, pour les victimes, mais aussi pour leurs descendants. Et que donc, en fait, la seule façon de résoudre justement ces souffrances psychiques, c'est de prendre en compte ses douleurs, ses souffrances, en reconnaissant les crimes et en les reconnaissant comme victimes, et que finalement, c'est la condition d'une vie ensemble, je dirais, d'une vie bonne, pour reprendre une expression de Paul Ricoeur, parce que Paul Ricoeur a réfléchi beaucoup à ces questions-là, et que finalement, le préalable d'un vivre ensemble pacifié, c'est de reconnaître les crimes, c'est de réparer les victimes. Et là, ça va effectivement dominer l'appréhension des passés et donc impulser ces lois mémorielles partout en Europe.
Avec, vous l'avez dit, une approche transgénérationnelle qui peut parfois même s'étendre sur plusieurs siècles, c'est le cas quand on parle de l'esclavage.
Alors, le cas de l'esclavage que j'ai étudié un petit peu, effectivement, il est typique de cette évolution-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un discours dans les années 1980 sur le trauma. Quand je dis un discours, c'est porté par Édouard Glissant, par exemple, dans le discours anti-IS, un livre qu'il publie en 1980, par Raphaël Confiant, par plutôt des élites culturelles, en fait. Hein. Ça se déroule, ça s'apprécie ou ça s'appréhende au départ comme ça, ou qui considèrent qu'en fait, la traite et l'esclavage, finalement, malgré l'abolition de 1848, il y a toujours des blessures. Il y a toujours des blessures chez les descendants des esclaves et que ces blessures, en fait, sont à la fois dues non seulement à la violence de la traite et de l'esclavage, mais de leur déni dans la mémoire nationale, dans le récit national français, de l'État français depuis 1848. Et que donc, finalement, il faut passer par la reconnaissance de ces violences-là. Et donc, ça sera la loi Taubira de 2001, hein, donc proposition en 1999 et elle est votée le 10 mai 2001. Ça sera justement ce travail-là de reconnaissance avec une catégorisation qui est nouvelle au XXe siècle, hein, celle de crime contre l'humanité. Là, on a aussi une nouveauté qui est d'ordre juridique, mais qui va influer sur le discours historique et sur les récits historiques.
Alors, dans cette affaire, quelle est la posture du législateur? Quel est son rôle?
Alors, le rôle, justement, le rôle du législateur a évolué dans les années 1990, et quand on regarde de près les textes des débats parlementaires, c'est aussi extrêmement intéressant, à la fois sur l'initiative d'une proposition de loi, mais aussi ensuite dans les débats. On se rend compte que le législateur, quel que soit son pays d'ailleurs, hein, que ce soit en France, mais aussi en Europe de l'Est, parce que l'Europe de l'Est est un cas particulier, le législateur se voit comme celui qui doit justement pacifier la société. Et qu'est-ce qui concourt à pacifier la société ? Et là, je ne vais pas parler du débat actuel sur justement est-ce qu'il vaut mieux régler les conditions sociales des gens ou régler les problèmes mémoriels. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le législateur se met effectivement dans le rôle qu'il présente comme garant de l'unité nationale, mais aussi, à travers cette unité nationale, garant de la cohésion sociale. Et on est dans le paradigme, en fait, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, qui va finalement être intégré dans une pratique législative par ces législateurs, donc par des députés, par des sénateurs, pour nous en France, considérant que vous avez une action forte à mener qui doit être normative, et c'est pas juste une déclaration, c'est ça qui est intéressant en fait pour nous aussi, hein. On ne s'arrête pas juste à une déclaration purement et simplement, mais en fait ces lois souvent sont non seulement une déclaration mais aussi l'idée qu'il faut enseigner par exemple ces violences, mais aussi l'idée qu'il faut pénaliser les contestations de ces violences faites à des individus, eh bien effectivement le nouveau rôle des législateurs c'est de prendre en compte tout ça pour soigner la société. Il y a vraiment une dimension thérapeutique, finalement, que le législateur prend en compte, en tout cas dans son rôle et dans sa fonction.
Alors, ces votes ne se font pas sans débat public ni joute parlementaire. Quels sont vraiment les tiraillements à l'œuvre dans ces débats ? Ils se cristallisent énormément autour de la question de la liberté d'expression.
Alors, je dirais qu'il y a deux sortes de débats, en fait, que ce soit en France, parce qu'en France, il y a eu énormément de débats sur les lois dites mémorielles, mais aussi, on voit le cas allemand, en fait, hein, dans ce hors-série qui en parle, qui l'évoque. Il y a deux sortes de débats. Un, premier débat, c'est le rôle du législateur à écrire l'histoire. Finalement, où on a un certain nombre d'historiens qui ont même créé une association, Liberté pour l'Histoire, en 2005, qui ont considéré qu'il n'appartient pas au Parlement et donc au législateur de qualifier l'histoire et d'interpréter l'histoire, et que là, on était dans un abus, dans une pratique abusive qui contrevenait finalement à la liberté des historiens, d'où le nom Liberté pour l'Histoire, à la liberté des historiens de faire des recherches et donc d'interpréter l'histoire à travers leurs travaux et donc de faire avancer évidemment la connaissance historique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on le trouve en France, mais surtout en Allemagne, je dirais, c'est sur la pénalisation. Il est extrêmement aussi, je trouve, très pertinent, enfin très intéressant comme débat. C'est autour de la pénalisation, finalement, des discours négationnistes, hein, donc des contestations de crimes contre l'humanité. Finalement, l'Allemagne a adopté très tôt également des règlements et des décisions de type parlementaire et en tout cas normatif pour pénaliser ceux qui contestaient certains crimes, et notamment la Shoah, et notamment donc le génocide des Juifs. Vous avez un certain nombre d'historiens qui ont considéré qu'en fait c'était inefficace et au contraire contre-productif, et que finalement ces contestations qui étaient portées par des individus en Allemagne dans les années 1990 pour dire qu'il n'y avait pas de génocide, finalement que ce génocide des Juifs n'avait pas existé, qu'on pouvait peut-être parler de violence, mais certainement pas de génocide, eh bien ces contestations-là, pour certains intellectuels, dont des historiens, ils considéraient qu'il fallait ne pas les pénaliser, parce que ça allait les renforcer en fait leurs convictions, et on est en pleine actualité aujourd'hui autour de ces questions de fake news, de complotisme, etc., que si vous en fait vous commenciez à interdire certains propos, eh bien vous aviez beaucoup plus de personnes pour dire finalement regardez, on nous censure, donc on nous cache certaines vérités, alors qu'il faut un débat. Il faut que ces questions de contestation soient portées dans le débat public et il faut en fait qu'elles soient réglées collectivement à l'intérieur des débats, notamment par des historiens qui vont justement affirmer des vérités. Et c'est exactement le propos d'aujourd'hui avec Laurent Joly. Excusez-moi de faire cet aparté, mais actuellement avec le livre de Laurent Joly, l'historien.
Oui, on comprend que ce n'est pas une question de fin, mais de moyens en tout cas qui était en cause. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'Europe de l'Est, et là apparaissent d'autres tensions, ce sont celles des conflits de mémoire.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant à suivre dans cette étude sur l'Europe et les lois mémorielles, c'est en fait l'évolution entre les années 90, 2000, 2010. On a ce qu'on a appelé un rideau de fer mémoriel au début des années 90 et au début des années 2000. Quel est-il ? Finalement, en Europe de l'Est, les lois sont très vite votées dans le cadre de la décommunisation, hein, donc de la chute du communisme, pour reconnaître les crimes communistes, pour reconnaître les victimes et pour réparer. Alors, on est encore dans ce principe de la réparation des crimes, mais là, évidemment, qui vise pas le génocide des Juifs, par exemple, mais là, qui vise les crimes commis par les dirigeants, les communistes. Et puis, évidemment, on va retrouver Staline. Hein, donc, la figure de Staline, elle est omniprésente dans ces lois-là aussi. Les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale à l'encontre de certaines populations en Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des élites politiques, mais soutenues par les opinions publiques en Europe de l'Est, qui considèrent qu'en fait, eux, ils ont été avant tout victimes du communisme et que finalement, la question du génocide des Juifs ne les concerne pas. Et c'est de cela dont on parle quand on parle de rideau de fer mémoriel. Vous avez un récit ouest-européen qui se construit autour de la reconnaissance du génocide des Juifs dans les années 1990, c'est très clair. On a même une résolution du Parlement européen en 1995 là-dessus pour instaurer des journées de commémoration pour se souvenir de l'Holocauste. Et pour l'Europe de l'Est, ça n'a aucune signification. Les opinions, en fait, publiques et leurs élites sont plutôt préoccupées par reconnaître ce qui s'est passé au niveau du communisme et donc des crimes commis à l'encontre des populations par les dirigeants communistes. Et on a dans les années 2000, en fait, un rapprochement, puisque vous avez un certain nombre de pays qui entrent dans l'Union européenne et vous avez beaucoup d'actions qui sont faites par les eurodéputés qui viennent d'Europe de l'Est pour dire, écoutez, voilà, vous voulez reconnaître des crimes commis à l'encontre des Juifs, eh bien nous voulons que le Parlement européen, que l'Union européenne, en fait, reconnaisse des crimes communistes avant tout dont on a été victime.
Alors, un pays qui prend ce sujet très à cœur, c'est la Pologne, qui a été pionnier dans ce domaine avec une loi en 1998 qui renvoie un peu dos à dos et les crimes communistes et les crimes nazis.
Oui, la loi de 98 votée en Pologne est extrêmement intéressante, parce qu'elle va aussi se diffuser dans d'autres pays. Elle va vraiment servir de modèle dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est. C'est une loi très large, en fait, qui concerne énormément de choses, mais en tout cas qui est effectivement tournée vers la décommunisation, comme on dit, hein, donc tournée vers la reconnaissance des crimes communistes et de la réparation des victimes. On va même créer un institut de la mémoire à travers cette loi, qui existe encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Et donc, on a toute tout ce raisonnement et tout ce récit qui est présent, qui contrevient au récit de l'Europe de l'Ouest, hein, en fait, hein, pour mettre au centre du jeu mémoriel les crimes commis par les communistes auparavant. Et donc là, vous avez deux récits, deux mémoires qui se confrontent avec une certaine incompréhension presque, hein, pendant en tout cas quelques années. Et finalement, le Parlement européen, et donc là on peut parler d'européanisation mémorielle, hein, donc vous avez un consensus à partir de 2008 notamment, vous avez une loi en 2008, puis une autre loi en 2019 hein, qui renforce ce consensus mémoriel autour de l'équivalence entre les crimes commis par les nazis à l'encontre des Juifs et les crimes commis par les communistes à l'encontre des populations d'Europe de l'Est. Il y a une équivalence qui évidemment fait débat, enfin, en tout cas, qui a été adopté à une grande majorité par le Parlement européen, mais évidemment, du point de vue historique, qui pose un certain nombre de problèmes.
Et l'un des problèmes, c'est que la population polonaise elle-même semble extérieure totalement à la responsabilité de ces crimes.
Alors,
on retrouve ça dans d'autres pays, d'ailleurs. On a l'impression que la population concernée n'a été que victime et que personne n'a pu y contribuer.
Oui, il y a deux évolutions, effectivement, et ce qu'on appelle le récit victimo-héroïque. En Pologne notamment, le cas russe est un petit peu différent. Vous avez, dans les années 2010, une évolution politique, finalement une évolution vers des politiques qu'on appelle illibérales, hein, donc des pouvoirs de plus en plus autoritaires, en tout cas de plus en plus nationalistes. Il y a un nationalisme qui est présent et qui va se retrouver dans la loi votée en 2018 par justement la Pologne, qui va non seulement contester toute responsabilité des Polonais et de la Pologne dans le génocide des Juifs, dans la persécution des Juifs, donc pour considérer effectivement, comme vous dites, que c'est une affaire extérieure à eux, que ça ne les concerne absolument pas, et qu'eux, ils sont avant tout victimes du communisme, victimes justement de Staline, de l'occupation, ce qui n'est pas tout à fait faux, évidemment, il faut le préciser. Mais non seulement ils considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec finalement le génocide des Juifs, mais la loi de 2018, ce qui s'est passé, donc en tout cas dans sa première version, c'est qu'elle pénalisait toute évocation publique qui consistait à accorder une responsabilité aux Polonais ou à l'État polonais dans la persécution des Juifs, ou en tout cas dans l'Holocauste. Donc on était dans un discours quand même de réhabilitation et de révisionnisme, tout simplement, de révisionnisme historique, puisqu'il y a des historiens polonais qui ont eu des problèmes, d'ailleurs, justement, depuis quelques années, sur ces questions-là, puisqu'il ne s'agit pas, ou c'est interdit, sous peine de sanctions pénales, d'évoquer, en documentant bien sûr, historiquement, d'évoquer des responsabilités de Polonais dans la persécution des Juifs, ce qui pose évidemment un problème pour l'historien.
Alors, cette perspective révisionniste, on peut la retrouver en Russie. Et il apparaît dans l'un des articles, qui est assez passionnant sur la Russie, que la conception qu'a la Russie de son passé, la façon dont elle met en avant notamment l'idée de guerre, empoisonne ses relations avec tous les anciens pays satellites. Là, c'est vraiment l'actualité géopolitique du moment. C'est une façon de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, par exemple avec l'Ukraine.
Avec l'Ukraine, non seulement avec effectivement ces anciennes dites minorités nationales comme l'Ukraine, mais aussi comme les États baltes. Donc, y a vraiment, ce sont des relations aujourd'hui d'un point de vue géopolitique et diplomatique très tendues avec les États baltes, qui effectivement s'accrochent aussi sur la lecture de leur histoire. Pourquoi je cite les États baltes ? Parce qu'ils ont été les premiers pratiquement à commémorer le pacte germano-soviétique. Donc là, on est en 1939, on est le 23 août. Ce sont les premiers qui ont commémoré ce pacte-là comme justement un événement qui ouvrait sur les persécutions pour eux vécues notamment par les communistes, puisque effectivement ils seront envahis, etc., etc. La Russie, au contraire, se voit comme, sous l'ère poutinienne en tout cas, comme le grand vainqueur. Et la Seconde Guerre mondiale n'est absolument pas vue à travers des crimes, mais au contraire à travers la Grande Guerre patriotique, comme il est dit. La Grande Guerre patriotique qui a permis non seulement de libérer le pays, attaqué par l'Allemagne, c'est vrai, bien sûr, mais aussi de libérer l'Europe dans ce discours-là. Donc il ne s'agit absolument pas de montrer aux autres États dans leur discours et dans la loi mémorielle de 2014, donc là aussi on a une loi, il ne s'agit absolument pas de se montrer comme des bourreaux, mais au contraire comme des sauveurs. On retrouve ce mythe, en fait, qui a eu lieu après la guerre sous Staline. On retrouve complètement, en fait, cette vision mythifiée du rôle de la Russie. Et avec la loi mémorielle de 2014, finalement, la Russie a décidé même de pénaliser toute évocation des crimes commis par les communistes et notamment par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, les lois mémorielles sont un produit d'exportation qui fonctionne bien. Vous donnez des exemples en Argentine ou en Turquie. Comment expliquer ce succès ?
Ce succès, en fait, peut se comprendre qu'à travers deux évolutions récentes. L'évolution dont on a parlé tout à l'heure des années 80-90 sur le nouveau paradigme de reconnaissance des victimes, enfin reconnaissance des crimes et réparation des victimes, qui s'est transformé en une sorte d'élément incontournable des États dits de droit, des États de droit, des États démocratiques. Et donc, finalement, vous avez dans certains États, vous citez l'Argentine, mais il y a énormément de conflits depuis 30 ans autour de ça, d'ailleurs, on va considérer qu'effectivement, un État de droit, un État démocratique, ce qui est soutenu par les organisations supranationales comme l'ONU, se doit d'apporter protection à ces minorités, se doit de mémorialiser, donc de mettre en récit les victimes du passé. Donc ça, c'est une première évolution qui a donc nourri énormément d'adoptions de lois mémorielles dans le monde. La deuxième évolution, elle est plus récente. C'est une sorte de renationalisation des récits avec des régimes autoritaires. Et là, en fait, cet outil, cette pratique législative est aussi utilisée, mais d'une manière tout à fait différente, pour assurer finalement un discours nationaliste qui va prôner les valeurs de la nation et surtout interdire finalement toute évocation de crimes dont ils auraient pu être responsables dans l'histoire, donc la Russie, donc la Turquie, évidemment, à travers le génocide des Arméniens. Et donc, en fait, on a un outil. Les lois mémorielles se sont transformées en outils de censure, pour le coup, et évidemment de révisionnisme historique.
Pensez-vous que la logique inflationniste est en train de se poursuivre et va se prolonger ?
Alors, c'est tout à fait difficile comme question, évidemment, pour un historien de prédire l'avenir. Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une pratique qui est, me semble-t-il, bien ancrée. Même pour reprendre le cas français, même après la commission Accoyer de 2008, justement, sur les questions mémorielles, les dispositifs législatifs ou pas, où il avait été question d'arrêter, finalement, toute adoption de loi mémorielle, en France, on a continué à adopter des lois mémorielles. Et il me semble que c'est une pratique ancrée parce qu'elle, dans certaines opinions publiques, en tout cas chez certaines élites et certains parlementaires, on va considérer qu'il s'agit d'une pratique dite démocratique et que le législateur a à se soucier de l'interprétation de l'histoire et de la qualification de l'histoire. Donc je ne vois pas cette pratique s'arrêter si tôt.
Et pour finir, est-ce que nous avons une idée de l'incidence de ces pratiques législatives sur la population? Est-ce que vraiment elles changent les représentations à l'école, par exemple, ou même dans les sociétés au sens plus large?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, dans cette question des lois mémorielles, il faut toujours se poser la question des effets, qui sont beaucoup plus compliqués pour nous, scientifiques, à saisir et donc à connaître. Je pense que c'est un cadre interprétatif qui est quand même assez, qui est donc assez normatif et qui peut être assez performatif, c'est-à-dire qui peut quand même avoir des effets. En tout cas, du côté de l'enseignement, c'est évident. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de lois mémorielles en France, mais également en Europe, qui ont dans leurs lois des dispositions sur l'enseignement de tel ou tel fait, et qui sont efficaces. Et donc, je reviens à la question de l'esclavage, où effectivement, à la suite de la loi Taubira de 2001, on a bien une intégration de cette histoire de la traite et de l'esclavage colonial en Amérique qui a été donc introduite, hein, donc, qui a été effectivement beaucoup plus présente à l'école. Et là, on a un effet direct, immédiat, sur des millions et des millions d'élèves pendant des années. Donc, il ne faut pas minorer les effets de ces lois mémorielles, effectivement, sur les populations.
Eh bien, un grand merci, Sébastien Ledoux. Je rappelle que vous avez dirigé le hors-série de la revue Parlement au pluriel. Et donc, le titre de ce numéro, ce sont « Les lois mémorielles en Europe ». C'est publié aux presses universitaires de Rennes. Et voilà, c'est tout à fait passionnant. Un grand merci et à bientôt.
Merci beaucoup.